France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier, évidemment, sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, 15 mois après les attaques du 7 octobre 2023. Et puis, pour le débat, nous recevrons un avocat, grand défenseur de la liberté d'expression, défenseur de la laïcité et ami de Charlie Hebdo. Il a passé une nuit au Panthéon et en a ramené un texte puissant, un long dialogue intérieur avec François-Marie Arouet, dit Voltaire, panthéonisé en juillet 1791, l'occasion d'une des premières cérémonies révolutionnaires et l'affirmation du Panthéon comme temple laïque. Voilà qui ne pouvait que parler à notre invité du jour, qui signe Après Dieu dans la collection Manuit au musée chez Stock. Que penserait Voltaire de notre France de 2025? C'est l'une des questions que nous poserons à l'avocat et écrivain Richard Malka, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
En reconnaissant qu'il était possible, vous l'avez dit, de parvenir au même résultat avec une réforme plus juste, vous avez ouvert la possibilité d'une alternative. Vous avez accepté à notre demande de ne pas différer le débat et vous réunirez donc dès demain les partenaires sociaux. Si vous êtes gêné, prenez la parole après moi, vous l'avez prise avant moi, faites-le. Mais si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qu'ils ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement, alors dites-le.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
On n'est pas habitué d'entendre Olivier Faure avoir ce ton. C'était le premier secrétaire du Parti Socialiste jeudi après-midi lors du débat sur la motion de censure rejetée du gouvernement Bayrou, une censure que le PS n'a pas votée, ouvrant, et on a entendu, une crise profonde avec LFI et peut-être même fatale pour le nouveau Front Populaire. Gilles, est-ce que ce qu'on a entendu là, c'est le retour d'une gauche réformiste, pragmatique, de gouvernement? Et le succès en creux de la méthode Bayrou, et puis précisément ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ça restera peut-être dans l'histoire contemporaine de la gauche, sans exagérer, mais quand même ça raconte quelque chose peut-être.
Jeudi, il y a eu ce vote de motion de censure dont on savait qu'elle n'allait pas être adoptée, mais dont on ne savait pas ce que
l'ampleur,
Parti Socialiste allait faire. Et s'il y a eu jusqu'au bout cette incertitude sur la position du Parti Socialiste, c'est en grande partie parce que on a eu une gestion politique par le Premier ministre assez hasardeuse. Ça a échoué sur cette idée d'un pacte de non-censure. Il n'y a pas eu de pacte, mais il y a encore la possibilité, il y avait encore la possibilité d'une non-censure. Et avant la déclaration de politique générale, il y a eu des avancées qui ont été obtenues, notamment par les socialistes. Et là où je parle d'une gestion politique hasardeuse par le Premier ministre, c'est que il a tardé grandement à officialiser ses concessions. Dans la déclaration de politique générale, il y avait peu de choses. Il y a eu quelques avancées sur les retraites et sur l'assurance maladie. Dans les réponses, après le débat sur la déclaration de politique générale, il y avait un peu plus, mais c'était assez flou. Et il a fallu attendre quelques heures, et même quelques minutes avant le vote, pour que, par un courrier, il officialise les concessions. Et donc, on a eu cette espèce de psychodrame que l'on aurait sans doute pu éviter. D'une certaine manière, il n'a pas aidé les socialistes à l'aider lui-même.
En revanche, il a peut-être aidé à l'implosion de la gauche, parce que ça a tendu encore plus les choses avec LFI hurlant qu'il n'y avait rien dans ce discours de politique générale, comme vous venez de le signaler.
Alors, maintenant, quelle est l'analyse que l'on peut faire de ce vote? Je crois que ce serait erroné d'y voir évidemment un changement d'alliance. Le Parti Socialiste n'est pas passé dans la majorité et ne soutient pas le gouvernement. De la même manière, c'est sans doute prématuré d'annoncer la fin définitive du nouveau Front Populaire, ce que Jean-Luc Mélenchon fait en accusant les socialistes de traîtrise, et les épithètes, les noms d'oiseaux ont volé avec violence cette semaine, tout simplement parce que le nouveau Front Populaire n'a jamais été un mariage d'amour, ça a toujours été un mariage de raison, et que si dissolution il y avait, on ne peut exclure que les mêmes causes produiraient les mêmes effets et que la gauche qui était divisée avant les élections européennes, qui s'est rassemblée en quelques heures après, pourrait faire de même. Mais, et c'est là, et je termine par là, je crois que c'est un moment quand même qui est un moment important, parce que ça marque une autonomisation du Parti Socialiste vis-à-vis de LFI. Ça avait commencé avec les élections au Parlement européen et la liste de Raphaël Glucksmann. Là, ça se poursuit avec cette déclaration de politique générale et la non-censure. Et ce qui est intéressant, c'est que savoir sur quoi ça se fait. Et en fait, fondamentalement, ça se fait sur un rapport à la politique et à la démocratie, c'est-à-dire sur un débat aussi vieux que la gauche elle-même sur la réforme et le compromis.
La réforme ou la révolution. Natacha, autonomie, dit Gilles, plutôt qu'indépendance du PS vis-à-vis de ses partenaires plus à gauche, vous souscrivez à ça ?
Oui, en effet, dans la mesure où on reste dans une situation profondément instable et qui peut se reconfigurer d'une manière ou d'une autre au gré des discussions sur le budget, de l'avenir de ce fameux conclave, bien entendu. Mais je serais un petit peu moins sévère que Gilles sur la façon dont François Bayrou a géré cela. En effet, il y a eu des flottements, mais n'empêche qu'in fine, François Bayrou a réussi ce que Michel Barnier n'avait pas réussi. Et il y a un côté un petit peu, Maquignon-Béarnais. Ça a été difficile, ça a été parfois maladroit, et dans les prises de parole de François Bayrou se lit assez souvent cette forme de maladresse, mais in fine, il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant, et c'est ce qui est assez croustillant, c'est de voir désormais les macronistes, par exemple, donner le point à François Bayrou. Ça n'était pas gagné, c'est-à-dire que quand François Bayrou s'est lui-même nommé à Matignon, puisqu'il faut se souvenir que c'est comme ça que ça s'est passé, je m'étais dit qu'il venait de sauver en partie Emmanuel Macron, puisque je reste persuadée que si Emmanuel Macron avait nommé Sébastien Lecornu comme il voulait le faire, c'est-à-dire un affidé complet, il allait à la catastrophe. Et qu'il se mettait dans une position où il finirait par être totalement échec et mat. Et quand on ne peut plus bouger, eh bien soit on forme un bunker, soit évidemment on démissionne. Donc François Bayrou a réussi, malgré tout, à reconfigurer un petit peu le paysage. Le but, me semble-t-il, ne doit pas être de sauver Emmanuel Macron, c'est pas le sujet, mais d'éviter une crise politique profonde. Et en effet, on a des socialistes qui ont pu se mettre dans une position où ils sortent du procès en impureté intenté par les insoumis, procès systématique, qui aboutit à la conflictualisation de tout, la radicalisation, et qui bloque toute possibilité, non seulement de stabilité, mais surtout de progrès pour les Français. On sait tous que va pas y avoir des changements absolument majeurs, mais le Parti Socialiste a obtenu quelques points dans une période où, de toute façon, tout est transitoire. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à tirer.
Un maquignon à Matignon, je retiens ça notamment de ce que vous avez expliqué, Natacha. Mais est-ce que le PS se renforce ou affaiblit, Gilles, de la séquence ?
Moi, je dirais plutôt renforcé. Mm-hmm. C'est une situation qui est très difficile. Hein. Il sort, je pense, plutôt renforcé parce que il a obtenu des choses et qu'il a osé s'affirmer. Est-ce que François Bayrou, lui, sort renforcé ? Est-ce qu'il a réussi, pour reprendre la formule de Natacha ? La fonction d'une déclaration de politique générale, il y en a trois en fait. C'est une fonction de légitimation démocratique. Elle n'a évidemment pas eu lieu puisqu'il n'y a pas eu de vote de confiance. La deuxième fonction, c'est la définition d'un programme.
Oui.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que on a eu plus d'intention que d'action et que le programme reste relativement flou. Et puis la dernière fonction, c'est une espèce de rite initiatique. Alors il l'a passé, on ne peut pas dire que ça a été brillant, que c'était éloquent, mais il l'a passé, il a réussi ce que Michel Barnier, vous dites, n'avait pas réussi, ce que Michel Barnier n'avait pas tenté, réalité. Donc, puisque c'est pas de ce côté-là qu'il regardait. On a parlé des effets pour la gauche, les effets pour la France, c'est que le gouvernement n'a pas plus de stabilité, puisque c'est une non-censure temporaire. Et là, la responsabilité n'est pas pour Michel Barnier, c'est que c'est la situation qui reste compliquée.
Un mot, Natacha ?
Un mot. Premier point. Il me semble tout de même positif que ce gouvernement, justement, ne soit pas pour l'instant dans la main du Rassemblement national. C'est, selon moi, un progrès. Et deuxième point, les Italiens ont une expression qui est celle de gouvernement de refroidissement. Les mauvaises langues ont tendance à dire que François Bayrou peut faire ce qu'il sait faire le mieux, ne rien faire. Dans l'état actuel des choses, c'est un peu cruel, il fera sans doute différentes choses, et je ne suis pas des plus sévères sur son discours de politique générale, parce que j'ai trouvé qu'il y avait justement, non pas un programme, c'est vrai, c'était pas un discours de Premier ministre, puisque toute sa vie, il arrivait d'être président. Donc c'était un discours qui fixait des horizons.
Mais c'est vrai que c'était un discours largement présidentiel.
Ces horizons n'étaient pas inintéressants. Il y avait des choses dans l'analyse de la situation, et ça ne me semble pas... totalement ni illégitime ni indigne que de fixer ses horizons et de surtout de calmer le jeu pour qu'on puisse repartir sur des bases de débat intéressantes.
Le grand face-à-face, le duel.
Ça fait depuis 2011 que les naissances baissent en continu, moins 20% quand même, donc c'est pas rien, ça commence à être assez vertigineux, et ça pose en fait juste un problème économique et social. Économique parce que ça veut dire que vous avez de moins en moins de jeunes en fait dans l'économie, dans la société, donc c'est moins de main d'œuvre et on est déjà en pénurie de bras, de cerveaux un peu partout. Hein. Et puis social aussi parce qu'on a un modèle social qui repose sur la démographie. Les retraites, la santé, la dépendance, ce sont les générations d'aujourd'hui en fait qui payent pour les générations d'hier.
L'économiste Maxime Sbahi, jeudi matin sur France Inter, auteur d'un livre sur le sujet, et après la publication d'un rapport assez alarmant de l'INSEE sur la baisse de la natalité en France, entre 2011 et 2023, les naissances ont baissé de 23%. Désormais, en moyenne, une femme fait en France moins de 1,66 enfants, loin du seuil de renouvellement des naissances à 2,1, d'où le concept de dénatalité et l'horizon d'une baisse démographique. Certains y voient le signe plus largement du déclin de la France, de la déliquescence de notre pays. Qu'en pensez-vous, Natacha ?
Alors, les termes « déclin de la France », « déliquescence » sont évidemment piégés.
On les entend
piégés.
Beaucoup à droite. Hein.
Il y a une situation qui est frappante, parce que la France, justement, n'était pas dans la même situation jusqu'à présent que les autres pays d'Europe. Elle avait, du point de vue de sa natalité, une forme d'avantage qu'elle a donc perdue.
François Bayrou, d'ailleurs, dans son discours de politique générale, a souligné que la France était le pays le plus jeune d'Europe.
Oui, dans un contexte où, en effet, la dénatalité frappe énormément de pays. Il faut regarder la Corée du Sud qui en est à 0,8 enfants par femme. C'est hallucinant. Donc la France est en train de rejoindre les autres. Et il faut bien préciser que depuis 2016, la population féminine en âge de faire des enfants n'a pas beaucoup changé, hein, les 20-40 ans. Donc c'est bien le taux de fécondité qui baisse. Les femmes font moins d'enfants. Et je rappelle qu'une enquête Verian-UNAF de 2023 disait que le nombre d'enfants désirés est de 2,27. Ça signifie donc que, bien sûr, il y a une forme d'évolution des mentalités qui fait une forme d'individualisme, a-t-on tendance à dire, qui fait qu'on préfère jouir de la vie, se faire plaisir, que de subir cette contrainte épouvantable que sont les enfants. Mais ça n'est pas que ça. Il y aurait moyen tout de même d'avoir plus d'enfants. Ce que ça raconte, c'est une perte de confiance en l'avenir. Et c'est là où c'est frappant. Alors, d'ailleurs, il va falloir éclaircir le fait qu'il y a une chute qu'on observe là, à partir du mois de juin, apparemment. Donc, si on se reporte à quelques mois avant, ça veut dire qu'en fait, quand on entre en instabilité politique, ça amplifie. De même que les carnets de commandes des entreprises se vident, et les gens attendent parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc, restaurer cette confiance, ça passe par différentes choses. D'abord, en effet, un horizon politique, une forme de stabilité. Mais après, il y a des choses très concrètes. Le logement, je veux dire, nous sommes un pays dans lequel le logement pèse pour 30% dans le budget des ménages. Et évidemment, vous ne pensez pas à élargir votre famille quand vous ne pouvez pas vous loger correctement ou quand le logement est trop petit. Donc, deuxième point, évidemment, les politiques familiales, et les politiques familiales, c'est surtout les gardes d'enfants. La spécificité française, c'était que les femmes françaises, jusqu'à présent, conciliaient davantage que les autres femmes européennes leur vie professionnelle et leur vie familiale. si on ne leur permet pas de faire garder leurs enfants, et si en plus on fait peser sur elles cette idée qu'il faut absolument être une mère parfaite, réussir ses enfants, comme le disait il y a quelques années une publicité, alors vous êtes certaine que vous faites peser sur les femmes quelque chose d'intenable. Je pense que c'est un signe inquiétant, il ne faut pas le négliger, et que c'est un thermomètre de ce qui se passe dans le pays.
Gilles, j'ai lu dans Le Temps, le grand journal suisse, une enquête consignée dans la fracture, ce qu'on appelle la fracture, et cette enquête raconte que 30% des 18-30 ans, donc ceux qui sont en âge souvent d'avoir des enfants, affirment avoir, et je les cite, plutôt de la malchance de vivre à l'époque actuelle. En 1999, c'était la moitié qui entretenait ce regret. Et quelque chose se joue aussi dans ce que vient de dire Natacha, de cet horizon, de cette incertitude, parce qu'il n'est pas que politique, on peut imaginer aussi le climat, bref, un ensemble d'incertitudes.
On peut, évidemment, le climat, la situation internationale, géopolitique, en général, toute une série de... Oui, mais pour une raison simple, c'est que essayez de vous figurer ce qu'a été la vie d'un jeune qui est né à la fin des années 90. Mmh. En fait, il n'a connu qu'une succession de crises majeures, de 2001 avec les tours, 2008 la crise financière, 2010 la crise de la dette, 2015 les attentats, 2019 le Covid, la guerre en Ukraine et pendant toute cette période la crise climatique. Donc évidemment que tout cela a un impact. Sur le bilan démographique de l'INSEE, je crois, à mon avis, il y a deux choses. On a une population qui continue d'augmenter. Et c'est une différence par rapport à d'autres pays européens. Mais elle augmente de moins en moins. Et là, en l'occurrence, elle augmente très peu. Et ce qui est intéressant, c'est de décliner les raisons pour lesquelles, parce que ça permet de comprendre pourquoi elle augmente peu. Pour que la population augmente, il y a deux possibilités. Soit c'est le solde migratoire, soit c'est le solde naturel. Mmh. Le solde migratoire, c'est un des enseignements de cette étude de l'INSEE, reste stable, 150 000 par an. Le solde naturel, c'est-à-dire l'écart entre les naissances et les décès, 17 000, on était à 300 000, plus 300 000 en 2006. Donc, c'est le solde naturel. Pourquoi le solde naturel? Il peut y avoir plus de décès, où il peut y avoir moins de naissances. Le nombre de décès est resté relativement stable, donc c'est ce qu'a évoqué Natacha, le nombre de naissances, et là, même sur une période plus courte, on voit année après année l'érosion. Donc, c'est les naissances. Mais les naissances, là aussi, il peut y avoir deux raisons. La première, c'est ce qu'a évoqué là aussi Natacha, parce qu'il y a moins d'âge de femmes en âge de procréer. Ce n'est pas le cas, et donc c'est vraiment parce que les femmes en âge de procréer font moins d'enfants. Ce 1,62 d'indice conjoncturel de fécondité, le plus faible depuis la fin de la Première Guerre mondiale.
C'est-à-dire il manquait des hommes pour faire des enfants.
Mais où il y avait beaucoup d'alertes sur le sujet.
Voilà, mais qui reste quand même, on est encore, c'est vrai que notre avantage se réduit, on est quand même, je regardais les chiffres dans les 27, on est quand même dans les 5 pays dans lesquels ce taux reste le plus élevé. Et j'ajoute un dernier mot sur un autre élément du bilan démographique de l'INSEE qui a été, à mon sens, trop peu relevé, qui est sur les structures familiales.
Oui.
Vous vous souvenez, dans la déclaration de politique générale de François Bayrou, il a dit qu'on allait réouvrir l'analyse sur les cahiers de doléances du grand débat.
Oui.
Un des éléments qu'on avait retenu de ce grand débat était la difficulté de la situation des familles monoparentales. Eh bien, ce que montre aussi ce bilan démographique de l'INSEE, elle permet de documenter cette question-là. 67% des enfants vivent avec leurs deux parents, 10% dans une famille recomposée et près d'un quart dans une famille monoparentale et de manière hyper majoritaire avec leur mère. On est dans des taux qui sont parfois, non pas de 23, mais de plus de 40% dans les départements et régions d'outre-mer, et on voit à quel point les difficultés s'accumulent dans ces familles, et donc là, il y a sans doute des choses à faire.
Bien sûr.
Allez, troisième sujet.
Le grand face-à-face, le duel.
Un sentiment mêlé de joie, il faut le dire. Un long cauchemar qui est peut-être en train de se terminer, mais aussi d'angoisse parce qu'on n'est pas sûr qu'il se termine. Et ajouter à cela une pincée d'amertume parce qu'on aurait pu faire cela il y a bien longtemps déjà. et que ça n'a pas été fait, que ça a coûté des vies humaines. Enfin, disons que dans l'ensemble, c'est quand même le soulagement et la joie qui domine.
Le soulagement et la joie d'Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, dans la matinale d'Inter jeudi matin. Depuis, l'accord a été validé par le cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une trêve après 15 mois de guerre, des dizaines de milliers de morts à Gaza, détruites aux trois quarts. Un accord qui comprend également, bien sûr, la libération d'otages israéliens. Gilles, une question toute simple. Pourquoi maintenant? Un accord proposé dans les mêmes termes avait été sur la table depuis plusieurs mois. On parle du mois de mai. Un accord concocté par l'administration Biden.
Évidemment, il y a des questions qui se posent sur le présent, il y a des questions qui se posent sur l'avenir, et dans la première question qui se pose sur le présent, celle que tout le monde se pose, c'est évidemment celle-là. Pourquoi aujourd'hui? Le narratif de Donald Trump est assez simple, c'est sa victoire, oui. Et c'est sa première victoire avant même qu'il ait été investi. Et j'ai été frappé dans la même interview d'Eli Barnavi sur France Inter, de voir que lui-même disait le poids qu'avait eu Donald Trump.
Tout en le regrettant, mais c'est vrai.
C'est une réalité, il y a eu un poids déterminant de Donald Trump. Ce n'est en même temps pas toute la réalité, parce que je crois qu'il y a quand même une conjonction de facteurs. Les efforts inlassables du Qatar et de l'Égypte, l'affaiblissement du Hamas, les pressions internes en Israël, à la fois celles des familles des otages, mais aussi des réservistes qu'il était la fatigue de la guerre, et puis une situation politique qui commençait à évoluer, et puis les pressions conjointes de Joe Biden et de Donald Trump. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il se passe réellement aujourd'hui? Le cessez-le-feu a lieu dimanche. La question, c'est la crainte qu'on peut avoir, c'est que ce soit seulement un répit. Il y a déjà eu un cessez-le-feu qui n'avait duré que quelques jours. C'est un peu le discours de Benjamin Netanyahou, disant la guerre n'est pas terminée. Mais on peut avoir l'espoir que ce soit vraiment un tournant, parce que les objectifs militaires ont été atteints, d'une certaine manière ils le sont depuis longtemps, mais surtout parce que on voit qu'il y a un engrenage politique positif qui peut se mettre en place, tout ça dans un climat qui va être celui de la mise au jour des horreurs de la guerre. Lorsque les caméras vont pouvoir arriver à Gaza et lorsque les otages vont pouvoir revenir des tunnels.
Et d'ailleurs, de cela naîtra peut-être la grande difficulté de construire ce que vous appelez une paix, ou au moins une coexistence pacifique entre ces deux peuples, nourrie d'un ressentiment extrêmement puissant. Natacha.
On peut en effet anticiper que les choses vont être très très compliquées. Jusqu'au dernier moment, on a vu le chantage de Ben-Gvir parlant de trêve irresponsable, c'est-à-dire que toutes les soutiens d'extrême droite de Benjamin Netanyahou ont voulu au maximum empêcher cela. On va voir aussi, évidemment, il y a le risque que le Hamas essaye d'en tirer un bénéfice pour tenter de se reconstituer. Mais ce qui était très intéressant, en effet, c'était d'entendre d'abord les mots très, très forts d'Eli Barnavi, qui a parlé d'effet Trump en disant « Trump a aboyé sur Netanyahou et donc a fait basculer les choses ». Et si vous lisez par exemple Haaretz, les mots étaient très forts dans l'éditorial d'Haaretz. « La vérité est simple, la guerre est terminée. En fait, elle est devenue inutile depuis quelques mois et les soldats sont morts pour des raisons politiques et non sécuritaires ». Quand vous avez un grand journal qui écrit ça, c'est extrêmement violent. Avec, à la suite, la restitution des deux otages est une obligation morale suprême, mais mettre fin à la calamité dans la bande de Gaza doit également être un impératif moral qui incombe à Israël. Donc il y a dans la société israélienne un besoin, dans une part de la société israélienne, un besoin justement de tirer les conséquences de tout cela. J'ajoute une chose sur le rôle de Trump. Évidemment, ça va passer par une normalisation, l'amplification d'ailleurs du lien entre Trump et les Saoudiens. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point on a une communauté internationale qui semble étonnée de ce qu'a donné de la façon dont l'arrivée de Donald Trump change le jeu. Der Spiegel, par exemple, écrit « Il reste un arrière-goût, le fait que ce soit justement le populiste Donald Trump qui ait imposé une fin, au moins provisoire, à la guerre avant même le début de son mandat, et ce, à des conditions qui étaient presque identiques sur la table depuis mai 2024. » C'est surtout ça, en effet, qui est frappant. Et Der Spiegel conclut « Un autocrate fait la paix, tandis que les forces démocratiques restent dans l'hésitation. » Mais en fait, il faut bien comprendre que la question n'est pas populiste ou pas populiste. C'est une question de vision de ce que sont les rapports internationaux, en quoi ils sont fondés sur des intérêts, plus que sur une conception du bien et du mal. C'est tout cela auquel il va falloir s'habituer. On peut déplorer, en effet, la façon dont ça se passe. Donald Trump avait permis les accords d'Abraham, qui étaient une erreur majeure dans la mesure où ça se faisait sur le dos des Palestiniens. Tout l'enjeu va être aujourd'hui de voir si on va éviter ce genre d'erreur.
C'est intéressant parce que Der Spiegel parle du manque d'hésitation de Trump. La presse américaine dit plutôt l'inverse, à savoir que c'est l'incertitude générée par Trump qui fait bouger Netanyahou, là où il était persuadé que l'amour inconditionné de Biden pour Israël ferait qu'il pourrait continuer à faire ce qu'il voulait à Gaza, rien ne changerait, ce qui était effectivement en train de se passer. Gilles.
Oui, juste un mot pour terminer. Évidemment, il y a la question de savoir quel va être l'avenir de Gaza. Et les débats internes au gouvernement israélien sont évidemment loin d'être terminés. Il y a la question derrière, si reconstruction il y a, de savoir quels vont être les acteurs de cette reconstruction, et notamment du côté palestinien. Mais j'aurais terminé par une autre question, je trouve, qui n'a pas été posée. C'est de savoir si, et qui est peut-être la plus décisive, si nous entrons dans une nouvelle phase de paix ou une nouvelle phase de guerre. Ou est-ce que c'est l'abandon d'un front pour en ouvrir un autre. On parlait la semaine dernière du discours d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs et notamment de ce qu'il disait sur l'Iran, de ce point de rupture dans lequel nous étions face à l'Iran, et lui ouvrait la porte d'une négociation élargie. La question, c'est est-ce que derrière le cessez-le-feu à Gaza, Israël, après le Hezbollah, après la Syrie, est-ce que ça va aller jusqu'en Iran?
Allez, place au débat.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Richard Malka.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat, écrivain, défenseur forcené, infatigable de la liberté d'expression, avocat et ami du journal Charlie Hebdo depuis plus de 30 ans. Vous avez notamment obtenu la relaxe du journal satirique en 2007 à l'issue du procès d'idées caricatures de Mahomet, lorsque Charlie Hebdo était à l'époque accusé d'injures publiques envers les musulmans. Fervent laïque, vous vous inquiétez du retour du religieux et de l'intolérance dans notre société. C'est notamment ce qui vous a conduit à choisir, lorsque l'éditeur Stock vous a proposé de passer une nuit dans un musée, de le faire au Panthéon pour y croiser Voltaire. Cela donne ce livre, Après Dieu, un livre où l'on parle de la France d'aujourd'hui et de l'état de la liberté d'expression. Et Dieu sait qu'on en parle énormément aujourd'hui et en particulier aux États-Unis. La semaine dernière, on avait commenté avec Gilles et Natacha une déclaration de Mark Zuckerberg sur la liberté d'expression. Je vous en soumets une autre cette semaine, de la bouche même d'Elon Musk, l'homme peut-être le plus puissant du monde aujourd'hui.
La liberté d'expression était autrefois une valeur de gauche. Et pourtant, on voit, vous savez, venant de certains courants de gauche, un désir réel de censurer. Et cela semble fou, je veux dire, je pense qu'on devrait être extrêmement préoccupé par tout ce qui sape le Premier Amendement, y compris le fait que certains pourraient penser que nos lois sur la liberté d'expression aux États-Unis sont excessives. Nous devons protéger la liberté d'expression. Et la liberté d'expression n'a de sens, elle n'est pertinente, que lorsque quelqu'un dit quelque chose que vous n'aimez pas. Parce qu'évidemment, la liberté d'expression, quand c'est une parole que vous aimez, c'est facile.
Richard Malka, j'ai vu votre visage changer. Au début, vous êtes en désaccord, j'imagine, avec Elon Musk, à la fin plutôt en accord.
Oui,
alors qu'en pensez de cette phrase d'Elon Musk?
Il cite Orwell, en fait. Effectivement, la liberté d'expression n'a de sens que s'il s'agit de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Parce que si c'est pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, ça ne sert pas à grand-chose.
Ça, vous souscrivez?
Donc oui, c'est une évidence. Après, la censure, là où je suis en désaccord, c'est que la censure est de tous les partis. De gauche, oui. Effectivement, mais aussi de droite, et surtout aux États-Unis, où on enlève des bibliothèques un nombre de livres considérables, dont Anne Frank, parce que ça ne plaît pas à tel courant catholique, évangélique, que ça peut heurter les bonnes consciences, les bonnes mœurs familiales. Donc non, moi, et puis je le vis dans mon métier, la censure, c'est un appétit humain. On a tous envie de censurer des propos qui nous heurtent, qui nous choquent, qui nous blesse, qui nous plaise pas. C'est énervant, le contradictoire. c'est embêtant. Il faut voilà. Donc c'est une pente humaine. Et c'est frappant. Moi, je dans un de mes derniers procès où je défendais une institution culturelle attaquée par des associations parce que un tableau ne leur plaisait pas pour être licencieux, je me suis retrouvé en face d'associations de défense de l'enfance d'extrême droite et d'extrême gauche. Mmh. Et elles avaient exactement le même discours. Donc, voilà, c'est malheureusement assez largement partagé.
Pour autant, il y a un débat aux États-Unis qui monte sur le free speech, la liberté d'expression totale, considérant, comme Elon Musk et les autres, que, et Zuckerberg la semaine dernière on en parlait, que la modération, c'est une forme de censure. On n'a pas les mêmes modèles, nous, de liberté d'expression de part et d'autre de l'Atlantique, mais quel est votre point de vue là-dessus? Parce que là, vous venez de condamner, critiquer la censure, mais critiquer la censure tout le temps pour tout, c'est aussi critiquer une forme de modération.
Alors, non, moi je n'ai jamais été un partisan de la liberté d'expression absolue. D'ailleurs, ça n'existe pas. Même aux États-Unis, ça n'existe pas. Vous pouvez pas appeler au terrorisme, allez, vous verrez ce qui se passe. Hein, oui. Ça, vous resterez pas libre très longtemps. Donc ça n'existe dans aucun système. La liberté d'expression, pour le premier amendement, est beaucoup plus large qu'en Europe, où effectivement il y a une régulation par la loi, plutôt qu'une autorégulation qui est le système américain. Donc l'absence de modération, à la limite, ça peut coller aux États-Unis. Ça ne colle pas avec notre culture juridique. Moi, je me prononce pas sur le système américain, mais ce qui me désole, en fait, c'est qu'on passe notre temps sur ce sujet-là, comme sur d'autres, la défense, l'IA, à s'exclamer, à lever les bras au ciel en disant « Ah, mais qu'est-ce que font les Américains? C'est horrible !» Mais pourquoi n'applique-t-on pas nos propres lois, notre propre droit européen? Pourquoi ne dit-on pas « Si vous voulez pas de modération chez vous, mais chez nous, si !» Parce que il y a une contrepartie à cette obligation de modèle, ou plutôt l'absence... En fait, ça marche avec l'absence de responsabilité des patrons des GAFA, des réseaux sociaux. On leur a dit bon, ok, on vous poursuit pas, on considère que vous êtes pas responsable de ce qu'il y a sur vos réseaux sociaux, mais en contrepartie, vous les modérez. Et en réalité, ils ont pris l'absence de responsabilité et ils n'ont pas modéré. Donc là, ça va plus. Si Natacha Polony dit des horreurs sur ce plateau, je peux poursuivre Sybille Veil. S'il y a une diffamation dans le Figaro ou dans Mediapart, qui est un pure player, j'ai quelqu'un à poursuivre, un directeur de publication. Je ne peux poursuivre personne. S'agissant de Facebook, de X, je n'ai personne en France. Et moi, je me bats depuis, ça fait 15-20 ans que je tiens ce discours, j'aimerais qu'on oblige ces réseaux à avoir un directeur de publication en France. Parce que sinon, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, ça sert à rien, j'ai personne à poursuivre.
Ça, c'est merci Bill Clinton qui avait permis aux États-Unis et notamment ensuite dans le monde que sur Internet, en effet, on ne soit pas comme dans la presse papier ou audiovisuel. Allez, on en vient à votre livre. Première question toute simple, qu'est-ce que Voltaire dirait de ce débat-là sur la liberté d'expression? Est-ce qu'il serait inquiet par des gens qui, en France aussi, poussent à une liberté d'expression totale, où il dirait « c'est formidable, c'est ça, les Lumières ».
Ah ben, je pense que, ayant été embastillé pour sa liberté d'expression, je pense qu'il serait assez séduit par l'idée de pouvoir parler très librement, ce qui n'était vraiment pas son cas. Au XVIIIe siècle, il a passé quasiment toute sa vie à renier les textes dont il était l'auteur. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai écrit ces textes-là, ils sont horribles, jamais j'aurais écrit des textes pareils. Et on le comprend, parce qu'il avait peur, comme tous les auteurs de ce siècle. Donc oui, je pense qu'il aurait été très très partisan de la liberté d'expression.
Gilles, et on va entrer dans votre livre qui est, je le répète, un dialogue presque intérieur entre vous, Richard Malka, en 2024 ou 25, et Voltaire au Panthéon depuis juillet 1791. Gilles.
C'est un dialogue entre Voltaire et vous. C'est intéressant sur Voltaire, je trouve ça peut-être plus intéressant encore sur vous. Tout à l'heure, Thomas disait, vous êtes un fervent laïc, vous êtes un fervent défenseur aussi de la liberté d'expression, on l'a vu, mais vous êtes, et c'est presque ça qui m'a le plus intéressé et que je trouve peut-être le plus intéressant, athée. En France, c'est une position philosophique assez commune. Mais la manière dont vous le défendez, de manière militante, est plus singulière, d'autant que, à la différence d'un certain nombre d'athées, vous êtes intéressé par les religions. Et d'ailleurs, le dernier chapitre, Remplacer Dieu, est absolument, absolument magnifique. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous êtes allé faire au Panthéon? Parce que vous aviez, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus chaleureux des musées que vous pouviez choisir. Est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas être avec des œuvres? Est-ce que vous vouliez être avec des humains, même morts, ou avec des idées? Puisque vous dites aussi le Panthéon, c'est un bâtiment idée.
Oui, parce que je précise que Stock vous dit, et à beaucoup d'autres auteurs, c'est une collection, allez n'importe où, passez une nuit dans un musée et ramenez-nous un livre. Ouais. Et vous choisissez un lieu qui n'est pas un musée, a priori, ouais. Enfin un musée, un bâtiment idée, comme vous le dites. Allez-y.
Je crois que je voulais que ça ait du sens, tout simplement. Et oui, pour moi, moi je remplace Dieu par du sens, en fait, dans mon athéisme. Donc j'ai besoin de ça. Donc j'avais envie de parler d'idées. Je voulais évidemment poursuivre mon dialogue intérieur, approfondir, ne pas tourner en boucle sur les mêmes arguments. Et je sentais que j'avais pris ces principes de liberté d'expression, de laïcité un peu par tous les bouts, juridique, historique, théologique, parce qu'effectivement, je suis passionné par les religions et je les étudie depuis maintenant longtemps, puisque les religions n'ont pas cessé, en réalité, de faire des procès à Charlie. Donc, par la force des choses, je m'y suis intéressé. Et donc j'avais envie de sortir un peu du confort dans lequel je m'étais installé et de pousser plus loin. Et dans ma folie, je me disais que peut-être par ce livre, je dirais tout ce que j'avais à dire une bonne fois pour toutes sur ces sujets-là. Évidemment, ça sera pas le cas parce qu'ils sont infinis. Mais voilà, je voulais me renouveler, me réinventer peut-être, et puis continuer à convaincre, en fait, continuer à réfléchir sur ces sujets de qui font l'actualité, qui font l'époque, et avec qui je pouvais en discuter plus pertinemment qu'avec Voltaire.
À convaincre que quoi ?
À convaincre d'abord de ne pas abandonner ce dont on parlait, la liberté d'expression. Et il y a des tentations. C'est fou parce que pendant des siècles, les hommes se sont battus pour en avoir davantage, et on finit en prison et parfois exécuté, chevalier de la barre, et pour être libre de discuter, y compris de religion, de critiquer, de s'en moquer. Et une fois qu'on a acquis ces libertés, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques décennies, on a fait avancer la jurisprudence. Jamais on a la liberté d'expression n'a été aussi protégée, et autant protégée. Jamais on a eu autant le droit de parler librement. Et ben à ce moment-là, c'est comme si c'est le peuple et non plus l'État, la police, la justice qui reculait, qui avait peur. Et qui voulait l'abandonner. Et donc il y a ces tentations-là. Donc ça, évidemment, ça parle de ça. Puis ça parle aussi évidemment de laïcité, puisque le Panthéon, c'est le bâtiment de la nouvelle religion républicaine. C'est voulu comme ça par les révolutionnaires. Et donc je pose cette question à Voltaire. Tu nous as emmenés sur le chemin de la laïcité, mais on est à mi-chemin, parce qu'on voit bien aujourd'hui le retour du religieux. On voit bien que la religion laïque ou celle positiviste de Comte et puis ensuite le communisme, ça n'a pas réussi à freiner ce retour du religieux. Ou plutôt, ça a réussi un temps, ça a réussi mieux en France qu'ailleurs, mais on sent une pression religieuse. Et c'est ça dont je voulais parler. Je voulais appeler à la méfiance. Je voulais alerter aussi sur cette idée de respect qui est complètement dénaturée, travestie, et qui empêcherait de critiquer le religieux, parce que c'est dans ce sens-là qu'il est utilisé aujourd'hui. C'est une arme de censure, le respect comme il est entendu parfois aujourd'hui. Donc je voulais parler de tout ça avec Voltaire.
Natacha.
Alors il y a divers avantages en fait à avoir choisi bien sûr le Panthéon. Il y a le fait que ça vous permet d'explorer toutes les options qui ont été celles depuis la critique des religions et la mort de Dieu. Il y a le déisme de Voltaire, il y a le culte de l'être suprême, et puis vous l'avez dit, ensuite différentes options, le positivisme. Et puis ça vous permet aussi de convoquer différents personnages. Vous dialoguez pas seulement avec Voltaire, ils y sont tous, hein. Il y a Hugo, il y a Zola, il y a même un archevêque italien. Et il y en a un qui m'a intéressé aussi beaucoup, qui est là, dans le caveau numéro 7, c'est Condorcet. Ah oui. Parce que vous le citez, Condorcet disait « En attaquant les oppresseurs avant d'avoir éclairé les citoyens, on risquera de perdre la liberté et d'étouffer la raison. » Et il me semble qu'en fait, un des nœuds du problème est là, et que c'est ce qu'on voit de façon la plus claire possible aux États-Unis. Et évidemment, ça m'évoque la distinction que Régis Debray faisait entre la démocratie libérale américaine et la République, qui a besoin d'un peuple éduqué, éclairé, et, disait-il, sans les lumières, ou plutôt la démocratie, c'est ce qui reste de la République quand on a éteint les lumières.
Les lumières. Mmh. Richard Malka.
Vous avez raison, et Condorcet est un personnage essentiel dans ce dispositif, d'autant qu'il a consacré une biographie à Voltaire. Et c'est des prophétiques, effectivement. Il a raison. Si on n'éclaire pas d'abord les citoyens, mais ils se rejoignent tous, en fait. Voltaire disait à peu près la même chose. Alors ça marche pas. Alors il y aura toujours un retour du religieux.
Pourquoi,
et
à votre avis?
Voire du fanatisme. Oui. Mais parce qu'il y a un vide. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de transcendance. On a tous besoin d'un plus grand que soi. Sinon, on devient fou. Sinon, comme Malraux le disait, on se fait tous sauter en l'air. C'est pour ça qu'il disait, le 20e siècle sera religieux, on ne sera pas. Et la suite de la phrase, c'est sinon, nous ferons tous sauter en l'air. On a besoin d'un plus grand que nous. Sinon, on est face à l'absurdité de la vie, à la difficulté de la vie. On a besoin d'une puissance consolante.
Mais le savoir, ça apporte quoi? Ça comble ce vide? L'éclairage, c'est quoi ça. Éclairer les citoyens, en fait?
C'est les lumières, en fait. On en revient aux lumières. Tous ces philosophes, parce qu'on est c'est le ciel des philosophes, Voltaire, Condorcet, Diderot, d'Alembert, c'est formidable. Mais ils pensent tous que le progrès humain, en fait, la connaissance, les sciences, la réflexion, que tout ça va pouvoir supplanter le fanatisme religieux et transformer, en fait, le christianisme. Et ils y sont partiellement parvenus, en religion très personnelle, en une spiritualité, et non plus en modèle de société qui s'imposerait comme un dogme et qui dirait à tout le monde comment il doit vivre. Et en cela, le christianisme, effectivement, est la religion de la sortie de la religion, comme le disait Marcel Gauchet. Parce qu'ils ont une base chrétienne, tous ces philosophes-là. Mais ils pensaient vraiment, et Voltaire pensait, qu'on était à la fin du fanatisme. Et il le disait, c'est fini, les lumières vont gagner. Et ce mouvement du XVIIIe siècle lui permettait d'avoir cet espoir pour l'humanité. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Parce que ça a marché comme ça en France un certain temps, mais il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, en particulier en 1905. Mais toutes les idéologies alternatives ont cédé, en fait. Et le communisme a été le dernier, la dernière.
Alors, est-ce qu'elles ont cédé?
Il faut un plus grand que soi. Dernier chapitre.
Oui, on va revenir comment dépasser Dieu. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut, à part quoi le remplacer? Mais de quoi est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est l'échec par l'affaiblissement elle-même de ces idéologies ou par la puissance du fait religieux qui emporte tout et qui finit par l'emporter? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une faiblesse interne ou un combat externe?
Et on le vit en ce moment, ce combat. Et on le vit avec une sacrée tension. Les deux. Je pense que on a pensé que c'était acquis pendant longtemps, parce que le fait religieux a reculé, et que, pour grosso modo, c'était réglé. Alors, il y avait quelques chapelles intégristes, mais bon, la société était acquise à la sécularisation. Donc, on a cessé d'enseigner, on a cessé de transmettre. Pourquoi c'est utile, la laïcité? Et on a permis à tous les ennemis de la laïcité de travestir cet idéal qui est une utopie merveilleuse, qui permet à nous tous de vivre ensemble sans avoir envie de se foutre sur la gueule, parce que vous êtes protestants, vous catholiques, vous juifs, et vous musulmans, et que on peut pas s'entendre. La seule manière de s'entendre, c'est de mettre la religion de côté, en fait. Parce que sinon, chacun veut imposer sa loi. C'est ça, la laïcité. Et donc, de privilégier la loi des hommes sur celle des dieux. Donc on a cessé d'enseigner à quel point c'est précieux, à quel point c'est un trésor. La gauche a abandonné, et ça c'est, j'en veux beaucoup à ma gauche, d'avoir abandonné ses valeurs, et d'autres s'en sont emparés, et aussi l'extrême droite, et Et j'ai très peur qu'il se passe la même chose pour la liberté d'expression. Et c'est le danger. Parce qu'une fois qu'on aura tout abandonné, ah là, faudra pas pleurer ensuite.
Si, vous dites quoi, le drapeau, la laïcité, bah c'est et maintenant la liberté d'expression, c'est ça que vous dites?
Mais en fait, ce sont des valeurs de gauche, historiquement. Ça veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être de droite, hein. Et parfois, je suis bien content qu'il y ait aussi des gens de droite pour les défendre, parce que elles ont été, alors c'est pas toute la gauche non plus. Il y a toujours des fervents défenseurs, mais enfin, parfois, on se sentait très seul à gauche quand on défendait ces valeurs-là. Mmh. Et puis, il y a parallèlement la nature ayant horreur du vide, et ben un retour du fait religieux qui prend la place de ces valeurs qu'on a cessé de vénérer et dont le caractère, parce que l'idée des révolutionnaires c'était d'en faire quand même, même si on le conteste parfois, mais c'était d'en faire pas une religion mais une spiritualité aussi. Et ça, on a perdu ce sens-là. Donc, oui, la religion est revenue en force. Alors, la religion, c'est l'islam. Et puis, pas que. C'est aussi, dans le protestantisme, les évangéliques qui prennent de plus en plus de place. C'est une religion très dure, très fondamentaliste, aussi littéraliste que peuvent l'être parfois les salafistes ou certaines églises, si vous permettez le terme, de l'islam. Donc, on est confronté à ce retour-là et parfois, il est violent. Il faut recommencer à enseigner, à transmettre, à faire de la pédagogie. En disant aux hommes, mais en fait, c'est pas laisser tomber la laïcité, l'universalisme, tout ça. Il s'agit juste de conserver vos libertés pour vous et pour vos enfants. Vos libertés de vous vêtir comme vous voulez, d'aimer qui vous voulez, de ne pas aimer qui vous voulez, de dire ce que vous avez envie de dire, parce que sinon, vous vous enchaînerez à nouveau. Et ça va pas être drôle.
Gilles.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à dire, et ce que vous dites là, est-ce que vous répétez sur le retour du religieux, et dans le même temps à constater, quand on regarde sur 40 ans ou sur 50 ans le rapport à la religion des Français, de voir que la France est un pays dans lequel il y a de plus en plus de gens qui ne croient pas, c'est peut-être le pays le plus athée du monde, et donc de dire les deux en même temps. Donc, est-ce que vous n'intériorisez pas que la pression d'une partie de la population, que cette pression religieuse soit forte? Oui, mais est-ce que ce combat est aussi sur le recul que vous le dites? Et question complémentaire, j'ai été comme ça saisi par une des propositions que vous faites, qui est de modifier la constitution pour que la France est une république, non pas une république laïque, ou pas seulement une république laïque, mais une république athée. Est-ce que une constitution doit prendre position sur cette question-là? On s'est battu contre une religion d'État. Est-ce qu'il peut y avoir un athéisme d'État?
Richard Malka.
Alors oui, bon, c'est un peu
provocateur,
sous forme de blague dans mon discours. D'ailleurs, je demande aussi qu'on change la devise de la France, et même ce qui figure sur les billets de banque, pour remplacer par des phrases de Voltaire.
Et Marianne, et le buste.
Et effectivement, faire de Voltaire une nouvelle Marianne. bon, voilà. Après, je trouve que ça aurait de la gueule, hein, de déclarer une république laïque et athée, pour bien marquer la méfiance, la distinction par rapport aux religions. Mais oui, vous avez, au-delà de ça, vous avez raison. Je pense que la France est de plus en plus athée. Mais parallèlement, enfin, et toutes les études le disent, en effet, mais parallèlement, vous avez des phénomènes d'intégrisme, de fanatisme religieux qui s'affirment, et de manière parfois violente. Enfin, depuis combien de temps on n'avait pas tué pour blasphème? En fait, depuis 250 ans, depuis Voltaire, depuis le Chevalier de la Barre. Il n'y avait pas une mort pour blasphème en France depuis Chevalier de la Barre jusqu'à Charlie Hebdo. Et puis ensuite, Samuel Paty, parce qu'il est aussi mort pour une forme de blasphème. Et puis bien d'autres, en fait. Donc, le retour violent, il est incontestable. Depuis combien de temps on n'avait pas eu un mouvement comme Daesh, aussi fondamentaliste, aussi violent? Donc, il y a cette poussée-là. Il faut la regarder en face, en fait. Il faut toujours regarder cette obscurité en face. Il y a des revendications. Il y a un rejet de la laïcité. il y a une volonté de sanctuariser la religion et de l'exclure du champ de la critique. On l'entend tous les jours. Et alors là,
rejet ou méconnaissance de la laïcité ?
Bah les deux. Elle a été tellement travestie, cette notion, avec tous ces adjectifs qu'on mettait à la suite. Ça fait 20 ans que je me bats simplement pour
définir.
Pour définir. Et voilà, c'est alors que c'est simple. Il n'y a pas à mettre d'adjectifs. Encore une fois, c'est on applique la loi des hommes, pas les lois de Dieu.
Natacha.
Si on considère que depuis les débuts des sociétés humaines, il y a une tentative pour essayer de limiter les pulsions. Et qu'en fait, tout le problème, c'est de savoir sur quelle base on régule les pulsions humaines et qu'on peut souhaiter en effet que ce soit par l'usage de la raison, ce qui est mieux que par une coercition. Voilà. Malgré tout, ce terme de raison, il pose problème. Moi, j'ai le souvenir d'une émission que nous avions faite avec Danielle Salnave sur son livre « Rue de la justice » dans lequel elle parlait de sa grand-mère et du rapport de sa grand-mère à la République. Et je trouvais ça passionnant parce que elle exprimait la difficulté de ce culte de la rationalité qui pouvait, par certains aspects, avoir l'air un peu méprisant pour justement ces incultes, ces paysans, ces bouseux qui n'avaient pas les lumières et la raison. Et aujourd'hui, on voit certains s'emparer de ce thème, de cette idée de la raison, en fait, pour parfois disqualifier les autres. Donc la question, c'est comment on fait pour que la raison ne serve pas à rejeter et ne prolonge pas dans une abstraction. C'est d'ailleurs une part de la confrontation entre Rousseau et Voltaire, cette question de l'abstraction de la raison.
La confrontation dure, parce qu'ils se détestaient l'un l'autre, et aujourd'hui au Panthéon, pour l'éternité, ils sont l'un en face de l'autre. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites, Natacha Polony. Vous abordez le volet un peu économique de la laïcité. Et ça, tous les pères fondateurs le disent. Évidemment, il y a une donnée économique. C'est-à-dire que pour le pays, c'est ce que je dis dans ce livre, pour le paysan du Bangladesh ou l'ouvrier du Sahel qui bosse 20 heures par jour et qui s'échine pour un salaire de misère, c'est vraiment compliqué de se passer de la puissance consolante qu'est Dieu. Parce que si
il y a le contre-exemple américain, alors, pour le coup.
Oui.
Extrêmement riche et très religieux.
Et très religieux. Mais si vous avez cette vie-là, et si on vous dit pas que dans l'au-delà, vous allez avoir une vie meilleure, c'est très très difficile de vivre. Donc il y a une donnée économique pour la pénétration de la raison, de la laïcité. Après, vous avez complètement raison. En fait, la raison, personne n'a la définition. Tout le monde croit être dans la raison.
Dans le compte des raisonnables, bien sûr.
Mais en fait, au-delà de la raison, et Voltaire, alors lui, il se méfiait des passions. Il était aussi très, très rationaliste, contrairement à Rousseau. C'est une des raisons pour lesquelles il détestait Rousseau. Mais au-delà de la raison, c'est le doute, en fait. La garantie de la raison, en fait, c'est le doute. C'est douter de soi en permanence et de ce qu'on croit. Le doute raisonnable. Mais ça aussi, c'est les lumières.
Richard Malka, je m'en voudrais de ne pas évoquer vous qui, en fait, c'est une forme de déclaration d'amour à l'humain. Et il y a un homme en particulier dans ce livre qui est important, c'est Georges Kiechmann.
Oui.
On sent que, en filigrane, il est là.
Ah bah oui.
Et vous ne pouviez pas ne pas penser à lui en passant une nuit au Panthéon.
Oui, d'autant que il me fait vraiment penser. Enfin, Voltaire me fait vraiment penser à lui ou l'inverse. Ils ont la même. J'en parle au présent, mais il y a une éloquence, il y a une drôlerie, il y a une pertinence, il y a une séduction qu'ils exerçaient en permanence. C'était un homme des Lumières, Georges, et il m'accompagne tout le temps. Aucune de mes plaidoiries importantes n'était possible sans que je l'appelle avant pour en parler avec lui. On a tous des mentors dans la vie, des gens auxquels on pense, qu'ils soient là ou pas, à chaque fois que l'on fait quelque chose, en se disant « je voudrais qu'il soit fier ». Et donc j'essaie de me hisser à sa hauteur. Et c'est des grands modèles. Et ils sont là pour la vie.
Et les gens qui liront votre livre découvriront que c'est le hasard qui vous a mis sur son chemin.
Absolument.
C'est assez touchant. Je termine par une citation de votre livre pour bien raconter le style de votre écriture et le sens aussi de votre livre. C'est page 107. Tu avais le droit, c'est Voltaire, hein, tu avais le droit d'être judéophobe, islamophobe ou christianophobe. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Avoir peur des religions, c'est sain, vu les millions de morts et les atrocités que nous leur devons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Richard Malka. On lira Après Dieu, Manuit au musée aux éditions Stock. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à la réalisation. Aujourd'hui, c'est Cédric Diallo qui était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.